Un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Le nouveau Premier ministre du Liban veut former un gouvernement en un temps record. Mustapha Adib promet de s'appuyer sur des experts et des personnes compétentes pour engager les réformes attendues par les Libanais. Analyse d'Aurélien Colli et reportage de Christian Chesneau au port de Beyrouth, quartier dévasté par l'explosion du 4 août. Accord de paix officiellement signé au Soudan. Les autorités soudanaises et plusieurs mouvements rebelles ont paraphé le texte destiné à éteindre une guerre de 17 ans. Explication de Nadine Epstein. La rentrée est bien préparée, dit Jean-Michel Blanquer. Pour l'essentiel, elle sera aussi normale que possible. Hakim Kasmi nous fait vivre la rentrée des profs d'un collège de Seine-Saint-Denis. À l'approche du procès des attentats de janvier 2015, le ministre de l'Intérieur dresse un état des lieux de la menace terroriste en France. Elle demeure extrêmement élevée, nous dit Gérald Darmanin. Explication d'Anne Fauquemberg. Le Liban a un nouveau Premier ministre. À la mi-journée, le président Michel Aoun a chargé le diplomate Mustapha Adib de former un nouveau gouvernement. Et à peine nommé, il s'est rendu dans un quartier de Beyrouth dévasté par l'explosion du 4 août. Aurélien Colli, vous êtes en direct de la capitale libanaise. Le nouveau Premier ministre s'engage à lancer rapidement des réformes.
Oui, mais la tâche est titanesque vu l'état économique du pays, vu aussi le discrédit de la classe politique libanaise. Alors Mustapha Adib va tenter d'incarner le changement. Dès sa nomination, il s'est rendu dans les quartiers dévastés, vous le disiez, de Beyrouth, ce qu'aucun responsable politique national n'avait fait jusqu'à présent. Et puis il a insisté aussi sur la nécessité de former un gouvernement en un temps record pour donner des gages aux Libanais. Il promet aussi une équipe ministérielle d'experts et de personnes compétentes qui vont enclencher des réformes. Réformes attendues depuis longtemps par les Libanais, mais vous le savez aussi par la communauté internationale qui a conditionné ses aides à un changement profond de la pratique politique au Liban. Mustapha Adib se fixe d'ailleurs comme premier objectif un accord avec le Fonds monétaire international. Beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'entrain. Seulement les Libanais ont déjà connu ça avec leur précédent premier ministre Hassan Diab. En janvier dernier, il avait aussi promis des réformes, des experts dans le gouvernement et un accord avec le FMI avant d'être paralysé par le jeu des partis confessionnels. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, des militants de la société civile, ceux qui réclament depuis octobre dernier la fin de la classe politique héritée de la guerre civile, ont comparé Mustapha Adib à l'ancien Premier ministre Hassan Diab. D'autres estiment aussi que c'est un homme du passé, même s'il apparaît moins lié au parti traditionnel. Des voix dénoncent enfin une opération de façade juste pour la venue demain d'Emmanuel Macron. Une différence quand même notable avec le Premier ministre sortant. Mustapha Adib, lui, est soutenu par le bloc sunnite.
Et Emmanuel Macron retourne donc demain sur le port de Beyrouth. Il s'y était rendu le 6 août. Depuis, certaines zones ont été déblayées grâce au travail conjugué de 400 militaires libanais et d'autant de soldats français, Christian Chesneau.
Le chantier tourne jour et nuit dans une chaleur étouffante. Sa mission, déblayer des montagnes de gravats, de tôles de fer ou de structures de béton. Sur le port de Beyrouth dévasté, 250 militaires français sont à pied d'œuvre depuis le 14 août, explique le colonel de la Bardonie, commandant du groupe Terre, Ventoux.
Vous êtes ici sur une des zones assez centrales du port. Se dresser ici un certain nombre de hangars que nous sommes en train de démanteler. L'objectif pour nous, c'est de libérer de l'espace de stockage le plus rapidement possible, afin de permettre le fonctionnement nominal du port le plus vite possible.
Un travail de titan qui s'effectue main dans la main avec l'armée libanaise, ajoute le colonel Youssef Haïdar.
Jusqu'à maintenant, ce sont plus que 8000 tonnes de gravats. Mais chaque jour, ça s'accumule. Voilà.
Et c'est quoi la difficulté du chantier?
La difficulté sont les marchandises des gens. Les gens ont beaucoup de choses qui ne sont pas réglées juridiquement. Nous sommes en train de trier non seulement le métal et le gravat, mais aussi les marchandises.
Ce travail de fourmi commence à payer. Le port de Beyrouth a déjà retrouvé 40% de sa capacité opérationnelle. La noria des camions a repris pour sortir des containers. Seule la zone de l'explosion au niveau du silo à grains reste en l'état pour les besoins de l'enquête des experts libanais et internationaux.
Christian Chesneau à Beyrouth. Aux États-Unis, démocrates et républicains se renvoient la responsabilité des violences de ces derniers jours. Il y a eu une fusillade mortelle samedi à Portland lors d'un rassemblement de partisans de Donald Trump. Aujourd'hui, Joe Biden accuse le président d'avoir fomenté la violence dans les villes américaines. Donald Trump, lui, s'érige en défenseur de la loi et de l'ordre. Il se rendra demain à Kenosha, dans le Wisconsin, où l'afro-américain Jacob Blake a été grièvement blessé par un policier. On retrouve à Washington notre correspondant aux États-Unis. Bonsoir, Grégory Phillips.
Bonsoir Aurélie.
La sécurité devient vraiment le principal thème de campagne aux États-Unis.
Oui, avant même l'économie, avant même la gestion de l'épidémie de coronavirus, c'est le sujet central de ces derniers jours, c'est vrai. Et d'ailleurs, Joe Biden, qui était quasi confiné chez lui depuis 3 mois, consacre son premier déplacement à cette thématique. Il va à Pittsburgh, Pennsylvanie, et les équipes du candidat démocrate nous ont dévoilé la teneur de ce discours qu'il va prononcer en début d'après-midi. Ce soir pour vous, êtes-vous en sécurité dans l'Amérique de Donald Trump? Trump accusé d'avoir fomenté les violences qu'on a vues ces derniers jours, les 2 morts à Kenosha tués par un adolescent armé, les affrontements de Portland, Oregon, et Biden va dénoncer la faiblesse de l'actuel président, incapable d'arrêter ses partisans qui agissent comme une milice armée. De son côté, le candidat républicain n'a de cesse de dénoncer ces démocrates complices, dit-il, des émeutiers, des pillards et des brûleurs de drapeaux. Souvenez-vous, c'était en résumé la teneur de son discours jeudi soir en conclusion de la convention du Parti républicain. Trump qui aussi tape à bras raccourcis sur les maires démocrates des grandes villes, incapables à ses yeux de faire respecter l'ordre dans leur ville. Vous avez raison, le président va donc à Kenosha demain après-midi, cette petite ville de 100 000 habitants qui a connu des émeutes la semaine passée. Pas pour rencontrer la famille de Jacob Blake, mais pour constater les dégâts et apporter, nous fait savoir la Maison-Blanche, son soutien aux forces de l'ordre.
Grégory Phillips en direct de Washington. Les ennemis d'hier se sont serrés la main et ont même esquissé quelques pas de danse. Une grande cérémonie a eu lieu aujourd'hui à Djouba pour officialiser la fin de 17 ans de guerre au Soudan. Les autorités soudanaises et plusieurs mouvements rebelles ont paraphé cet accord de paix historique. Un texte dans lequel ils ont tenté de régler tous leurs différends, Nadine Epstein.
Les accords de paix ont d'abord été paraphés par les mouvements rebelles du Darfour, regroupés au sein du Front révolutionnaire soudanais, le FRS, et le vice-président du Conseil de souveraineté, Mohamed Daglo. Les ennemis d'hier, la guerre a touché 1 million de personnes, se sont ensuite serré la main. Puis c'est le chef de l'État du Soudan du Sud, Salva Kiir, qui a approuvé le texte. Il aura fallu 1 an de négociations pour arriver à cet accord. La méfiance entre les parties était profonde et plusieurs tentatives avaient échoué, celle de 2010 au Qatar et celle de 2006 au Nigeria. Mais le dernier essai, lancé en septembre 2019, a été fructueux, même s'il a demandé 12 mois d'efforts, tant les questions étaient complexes et qu'il fallait régler d'autres problèmes que les seules questions de sécurité. Et les accords d'aujourd'hui concernent tous les sujets. Sécurité, propriété foncière, justice transitionnelle, réparation et compensation, développement du secteur nomade et pastoral, partage des richesses, partage du pouvoir et retour des réfugiés et des déplacés. Selon l'entente signée, les mouvements armés doivent à terme être démantelés et leurs combattants rejoindre l'armée régulière qui sera réorganisée pour être représentative de toutes les composantes du peuple soudanais. Tout n'est pas réglé pour autant, 2 groupes n'étaient pas présents aujourd'hui, le mouvement de libération du Soudan et le mouvement populaire de libération du Soudan Nord.
Nadine Epstein. Rentrée masquée pour tous les enseignants. Une rentrée bien préparée, selon le ministre de l'Éducation, qui s'est rendu en Mayenne pour saluer la gestion de la crise sanitaire dans ce département très touché par le virus au début de l'été. Le protocole sanitaire est simple et clair, selon Jean-Michel Blanquer, et l'un des plus stricts d'Europe. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie Kiefer.
Vous étiez ce matin à Gagny, en Seine-Saint-Denis, pour suivre la rentrée des enseignants du collège Théodore Monod. Comment ça s'est passé ?
Alors, consigne sanitaire oblige, c'est masqué mais heureux que la 50aine d'enseignants se sont retrouvés ce matin. Des enseignants qui ont hâte de retrouver leurs élèves demain, car ils n'ont pu revoir qu'une partie d'entre eux pendant les 2 semaines de cours en présentiel en juin. Résultat, pour commencer l'année, une remise à niveau sera nécessaire, comme nous l'explique Madame Loche, professeure de français.
On a fait en sorte de réfléchir aussi aux notions qu'on avait eu plus de mal à aborder en fin d'année, afin de les reprendre en ce début d'année pour insister sur ces bases qui n'avaient pas été vues.
Alors, s'ils savent qu'ils vont devoir s'adapter sur le plan pédagogique, puisque le niveau risque d'être hétérogène, avec la longue période de confinement et les cours en ligne, ce qui les inquiète, c'est aussi la manière d'enseigner qui va changer avec le port du masque. Luc Chalamet, professeur d'histoire-géographie.
Il y aura une nouvelle relation à l'élève qui va se construire. Tout ce qui peut passer par le non-verbal ne pourra pas forcément passer, en fait. Parce qu'on sait que dans notre métier, on ne travaille pas qu'avec le langage, on travaille aussi avec notre visage, avec nos expressions, avec nos sourires, avec nos intonations, et avec le masque, c'est quelque chose qui va être compliqué.
Au niveau sanitaire aussi, l'établissement a dû s'adapter. Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, non-brassage des élèves qui devront rester dans la même classe, sauf pour les matières culturelles et sportives, avec également des horaires décalés pour les récréations. Damien Ballard, le principal du collège.
Nous avons pris le soin de fixer les élèves dans des classes. Nous avions assez de salles pour pouvoir le faire. Et nous envisageons aussi de décaler les récréations. Nous terminerons un cours un petit peu plus tôt pour permettre aux élèves de 6e, 5e de prendre leur récréation. Et une fois que les élèves de 4e, 3e seront descendus et pourront accéder à leur récréation, nous ferons remonter les 6e, 5e pour qu'ils puissent débuter les cours.
Demain, 600 élèves effectueront leur rentrée au collège Théodore Monod.
Hakim Kasmi, demain, c'est donc autour de quelques 12,5 millions d'élèves de retourner en classe. L'obligation du port du masque s'impose à partir de demain dans les entreprises, mais selon quelle modalité ? Seule une version provisoire du protocole national a été envoyée cet après-midi au syndicat. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
Le protocole définitif tenant compte des observations des syndicats devrait être publié dans la soirée, mais d'après ce que vous savez, les dérogations au port du masque restent limitées.
Oui, il y avait notamment la question des bureaux collectif. Est-ce que monter une cloison en plexiglas peut permettre aux salariés de ne pas porter le masque dans l'entreprise ? Non, répond le ministère du Travail dans ce protocole préliminaire. Il pourrait y avoir quelques minutes de répit pour les salariés. Toutefois, ils pourront ainsi poser le masque un certain temps si des conditions sont remplies. Et ces conditions, elles seront plus nombreuses en zone orange et rouge. Autrement dit, plus le virus circule, plus les mesures de prévention sont importantes. En zone verte, pour enlever le masque, quelques minutes seulement. Il faudra notamment qu'il y ait des cloisons en vitre ou en plexiglas, de même que la mise à disposition de visières pour les salariés. En zone orange, il faudra en plus, je cite, des locaux de grand volume. Et en zone rouge, il faudra un espace de 4 mètres carrés en plus garanti par salarié.
Et y a-t-il des cas, alors, où les salariés sont totalement exemptés de porter le masque ?
Oui, de rares cas où c'est dangereux pour leur santé, comme ceux qui travaillent en milieu froid. Écoutez les explications de Pascale Coton, vice-présidente de la CFTC.
Quelqu'un qui travaille près de zones où c'est congelé, bien évidemment, la buée qui est donnée par le masque est dangereuse puisque ça brûle la peau. Et puis dans les ateliers, notamment, où il y a quand même beaucoup d'efforts physiques à faire, ce ne seront pas des masques mais des visières, à condition que tout soit bien aéré, bien ventilé, que les distances de sécurité soient bien respectées. Et là, les salariés pourront ne pas prendre de masque mais avoir des visières obligatoires.
En ce qui concerne enfin le télétravail, c'est une pratique recommandée pour tous les salariés. Dans le dernier protocole, c'était une solution à privilégier. On descend donc un peu d'un cran pour ne pas casser le lien social, dit-on dans l'entourage du ministère du Travail. Même si, en zone rouge notamment, le ministère continue à encourager le télétravail pour éviter notamment l'engorgement dans les transports en commun.
Anne-Laure Jumet. En juin dernier, Verallia, numéro 3 mondial du verre d'emballage pour les boissons et les produits alimentaires, annonçait un plan social en France. 130 suppressions de postes sont prévues, dont 80 sur le site de Cognac où un four sera fermé. Les syndicats de l'usine Verallia de Charente demandent l'intervention du gouvernement. Ils sont reçus aujourd'hui à Bercy. Bonsoir Annabelle Grelier.
Bonsoir Aurélie.
Verallia a distribué cette année 100 millions de dividendes et la BPI, la Banque publique d'investissement, actionnaire depuis 2015, a elle aussi pris des dividendes. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un licenciement boursier ?
C'est en tout cas ce que pense le député communiste du Nord, Fabien Roussel, très actif sur ce dossier. Il est allé la semaine dernière à la rencontre des salariés de Cognac. Il a même rendu visite aux élus locaux, comme la députée LRM de Cognac, Sandra Marceau. Elle aussi, aujourd'hui, fait partie de la délégation charentaise, venue rencontrer un conseiller technique au cabinet de Bruno Le Maire à Bercy cet après-midi. Car sur le plan économique, il y a quand même de nombreuses questions qui aujourd'hui interpellent élus et syndicats et auxquelles la BPI devra répondre. La Banque publique d'investissement est entrée en effet au capital de Verallia en 2015, au moment de son rachat par le fonds américain Apollo. La CGT dit à l'époque l'avoir souhaité pour que le gouvernement puisse conserver un droit de regard sur la gestion de l'entreprise. Elle y détient 7%, très minoritaire, elle ne peut empêcher un plan social, mais elle peut en revanche ne pas le valider, alerter les syndicats, bref, protéger leurs intérêts, car c'est quand même le rôle premier de la BPI. C'est soutenir l'industrie française, investir dans les secteurs stratégiques, en tout cas viser des investissements de long terme et pas forcément ramener des dividendes. Quel était le pacte avec l'actionnaire majoritaire ? Car il y en a toujours un. Le connaître nous donnerait en fait à comprendre son ambition industrielle. Si la BPI ne répond pas à la presse pour le moment, elle devra répondre évidemment à Bercy et nous expliquer quel rôle elle joue dans ce dossier.
Annabelle Grelier.
À deux jours de l'ouverture du procès des attaques de Charlie Hebdo, Montrouge et de l'Hypercacher, l'État reste présent sur ces sujets en dépit de la crise de la Covid-19. C'est ce qu'ont voulu montrer le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et sa ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, à travers toute une journée de communication. Après la présentation ce matin depuis la place Beauvau des contours du nouveau ministère dédié à la citoyenneté, les deux ministres étaient à la DGSI cet après-midi, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, installée à Levallois-Perret, et en charge de la lutte contre le terrorisme. Bonsoir Anne Falkenberg.
Bonsoir.
Pour ce sujet au long cours, à seulement 2 ans de la fin du quinquennat, le ministre de l'Intérieur a fait un point précis de l'état de la menace terroriste.
Oui, Gérald Darmanin, selon qui la menace terroriste demeure à un niveau extrêmement élevé sur le territoire. Il rappelle que depuis 2013, 61 attentats ont été déjoués, 32 depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, même si depuis 3 ans, le pays a encore connu 10 attaques, rien que cette année à Villejuif, Romans-sur-Isère et Colombes, des attaques qui, depuis 2017, ont fait une 20aine de morts. Le ministre est revenu sur les différentes origines de ces attentats avec une dimension extérieure liée à la résilience de l'État islamique et une composante endogène dans nos murs, insiste-t-il.
La menace représentée par des individus adeptes d'un islam radical, sensible à la propagande, mais non nécessairement liée à un groupe constitué, devient un défi croissant pour les services de renseignement qui assurent aujourd'hui le suivi de 8132 individus inscrits au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.
Gérald Darmanin qui précise également qu'en dehors du terrorisme d'origine sunnite, d'autres groupes radicaux et extrémistes peuvent passer à l'acte, citant le suprémacisme blanc. Un cas cette année, un ex-militaire d'une 30aine d'années repéré par la DGSI sur les réseaux sociaux et interpellé. La DGSI qui verra ses effectifs augmenter à plus de 1260 agents d'ici la fin du quinquennat et qui est en projet avec une cité du renseignement, qui rassemblera à terme les 3 sites à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis.
Et ce matin, la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, a annoncé un projet de loi contre les séparatismes d'ici la fin de l'année. La députée La France Insoumise, Danielle Obono, représentée en esclave, l'article publié jeudi dernier dans Valeurs Actuelles avait suscité une vague de condamnations dans la classe politique. Aujourd'hui, le procureur de Paris indique qu'une enquête préliminaire a été ouverte pour injure à caractère raciste. C'est une revue qui compte dans la vie intellectuelle française, mais il faudra bientôt en parler au passé, car la revue Le Débat s'arrêtera cet automne après 40 ans de publication. C'est son fondateur qui a annoncé la fin du débat. L'historien Pierre Nora dirigeait cette revue avec le philosophe Marcel Gauchet. Le Débat paraissait tous les 2 mois depuis 1980 et a publié des plumes prestigieuses comme Claude Lévi-Strauss, Mona Ozouf ou encore Milan Kundera. Et si Le Débat s'arrête, ça n'est pas pour des raisons financières, Maxime Tellier, mais parce que ses dirigeants estiment qu'il ne correspond plus à son époque.
Oui, nous avons choisi de nous saborder, annonce Pierre Nora dans le Point, une interview donnée samedi, où l'académicien constate que sa revue ne trouve plus sa place aujourd'hui. Nous avons l'impression de ne plus avoir prise sur le rocher social, explique l'historien, avec pour preuve la stagnation des ventes, 3 à 4 000 exemplaires pour chaque numéro, autant qu'en 1980, alors que le nombre d'étudiants a bondi depuis. Dans un monde espéré, ces étudiants et leurs professeurs nous auraient lus, regrette l'historien. L'ambition des débuts n'est donc plus atteinte, celle dont parlait Pierre Nora dans un grand entretien à l'INA au début des années 2000 et dont voici un extrait.
J'avais fortement conscience qu'on arrivait à une sorte d'âge neuf des revues et qu'il fallait contribuer à le créer, cet âge neuf, que j'ai appelé l'âge démocratique, si vous voulez, des revues, où il ne servait à rien de hurler son opinion. Il n'y avait pas lieu d'ajouter de l'opinion à de l'opinion, mais de l'analyse à un monde de plus en plus complexe. Mais en refusant les prises de parti inutiles, les positions parisiennes, et je continue à être comme ça.
Et la formule de la revue a sans doute vécu, estime aussi Pierre Nora. Aujourd'hui, avec le numérique, la plupart des lecteurs consultent un seul article, alors qu'une revue est en menu, soigneusement éditée. L'historien y voit aussi le signe d'une baisse de la curiosité à horizon encyclopédique. Les Temps modernes, autre revue éditée par Gallimard, ont d'ailleurs disparu il y a 2 ans, faute de suffisamment de ventes. Le débat s'arrêtera en septembre, avec un dernier numéro consacré aux révolutions. Mais Gallimard continuera d'éditer des livres dans la collection Le Débat. L'esprit de la revue n'est donc pas mort, veut croire Pierre Nora.
Pierre Nora qui viendra dans les matins de France Culture jeudi avec Marcel Gauchet. Demain mardi, le temps sera encore un peu frais avec un risque d'averse entre le Grand Est et les Alpes. Sur le reste du pays, la journée sera plutôt agréable. Température minimale comprise entre 6 et 20 degrés du nord au sud. Les maximales atteindront 18 à 25 jusqu'à 29 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.